Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Houle sociale en vue, à dimensionner en fin d'après-midi. La majorité et le gouvernement n'y croient pas. La marée populaire a pour l'instant rassemblé sur le papier plus de 60 organisations, syndicats et partis. Dépouillement en cours en Irlande. Le oui à la libéralisation de l'avortement s'annonce massif. Le camp du non vient tout juste de reconnaître sa défaite. Julien Lagache est à Dublin. L'Argentine croule sous les dettes. Son président fait appel au FMI. La rue se souvient encore de la crise de 2001-2002. Également au sommaire, reportage dans l'un des établissements de la PHP à la faveur d'une opération portes ouvertes ce week-end. Ses personnels s'emploient à innover malgré leur souffrance au travail. Et puis, la bulle économique est ce samedi une bulle fiscale. Marie Viennot nous entretient du verrou de Bercy. Il y a bien des courants, de multiples sensibilités, un large spectre des causes à défendre, des partis et des syndicats en crise de légitimité et de représentativité appelés à faire corps. Cet après-midi, à Paris et ailleurs, une marée populaire pour combattre les politiques d'austérité engagées par le gouvernement et incarnées par Emmanuel Macron. Le chef de l'État a d'ores et déjà prévenu, le désordre ne vaincra pas. Ses soutiens ne cessent de souligner que les précédentes mobilisations n'ont pas attiré les foules. Ce serait, écoutez Pierre Laurent, négliger l'extension des mécontentements. Le secrétaire national du Parti communiste, Pierre Laurent, sollicité par Yael Gauz ce matin sur France Inter.
Le nombre de secteurs qui sont mobilisés dans le pays, que ce soit évidemment chez les cheminots, mais dans d'autres secteurs, ne cesse de s'étendre. Et les fronts de mobilisation grandissent. Mmh. Pourquoi ? Parce que la politique d'Emmanuel Macron se révèle pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une politique très agressive pour la grande majorité des catégories sociales du pays, y compris pour la jeunesse. Donc il y a beaucoup de gens qui entrent dans l'action, mais évidemment, entre entrer dans l'action et trouver les moyens de faire reculer un gouvernement qui est très arrogant, très autoritaire,
déterminé
sur une politique, on voit bien, au service toujours des mêmes, eh bien, il faut faire grandir ces mobilisations progressivement. C'est à ça que nous travaillons.
L'examen houleux de la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et pour une alimentation saine et durable. Des heures et des heures de débat à l'Assemblée nationale, l'opposition a bombardé le texte d'amendements, ce qui a agacé une ministre de l'Agriculture. En fond de scène, l'implacable face-à-face agriculteur versus géant de la distribution et un État effacé qui se garde bien d'arbitrer cette confrontation, ce qui a agacé le ministre de l'Agriculture et, sur un autre mode, le porte-parole de la Confédération paysanne, Laurent Pinatel.
Stéphane Travert, là, pour le moment, il s'énerve beaucoup parce qu'il voit bien que cette loi, elle est loupée. Une loi où il y a 2000 amendements déposés, ça veut bien dire que la loi, au départ, elle est complètement nulle. Enfin, il faut aussi être logique. Si la loi était bonne, il n'y aurait pas eu d'amendement. Donc, il nous sort une loi qui est amendée, réamendée, qui fait l'objet de discussions interminables, personne n'est content. Stéphane Travert n'a pas fait son travail correctement en proposant cette loi. Donc, pourquoi il ne l'a pas fait correctement ? Soit parce qu'il est incompétent dans ce domaine, chose que je ne crois pas, soit il est sous la pression des lobbies. Et quel est le lobby le plus puissant aujourd'hui en agriculture ? C'est le lobby de l'agroalimentaire. Nous, on pense qu'effectivement, le ministère de l'Agriculture est noyauté par le lobby de l'agroalimentaire.
Il y a eu également cette nuit ce débat sur l'objectif de 50% de produits bio ou écologiques dans la restauration collective. C'est pour 2022. La droite le juge trop ambitieux. Quelle est votre position là-dessus ?
Nous, il nous semble qu'il y a une urgence à faire de la transition agricole. Le fait de créer un débouché sur des produits de qualité bio ou sous signe de qualité via la restauration collective, c'est quelque chose qui est un vrai appel d'air par rapport à la production. Toujours dire, on verra après, ça va trop vite. Oui, ça va trop vite, mais en attendant, les paysans et les paysannes, ils crèvent les uns après les autres, ils se suicident un jour sur deux et ça peut pas durer.
Laurent Pinatel, le porte-parole de la Confédération paysanne avec Matteo Maestracci. Les débats ont pris ce matin sur la part du bio dans la restauration collective. 160 amendements à examiner ce samedi. Près de 7 Irlandais sur 10 de celles et ceux qui ont pris part au scrutin auraient voté en faveur de la libéralisation de l'avortement. Ce sont les dernières estimations en date issues d'un sondage sorti des urnes pour le quotidien Irish Times. Le oui l'emportera. Résultat définitif dans l'après-midi. Comment expliquer ce oui qui s'annonce massif en terre catholique ? Premières ébauches d'analyse avec Julien Lagache qui ce matin s'est rendu dans un bureau de dépouillement du centre de Dublin.
Sous la tôle d'un immense hangar, les centaines de personnes venues dépouiller s'affairent. Les boîtes qui contiennent les bulletins de vote de Dublin s'enchaînent. Comme O'Gorman, président d'Amnesty Irlande, dit attendre le résultat final, mais pour lui, les projections de résultats ne sont pas surprenantes.
Il n'y a finalement pas eu cette division entre ville et campagne, pas plus que sur les critères d'âge. Et finalement, les prédictions qui parlaient d'un vote caché en faveur du non étaient fausses. En fait, c'est l'inverse qu'on a vu avec un vote discret mais ferme pour le oui, et c'est ce que disaient les sondages qui montraient que les indécis penchaient plus de notre côté.
De son côté, Cora Sherlock, porte-parole de l'association Pro-Life Campaign, affirme qu'elle respectera le vote, mais estime que son camp n'a pas bénéficié d'un traitement équitable.
Je suis surprise parce que ce résultat n'apparaissait pas dans les sondages. Mais vous savez, c'est très difficile de faire passer son message quand on dit aux femmes qu'elles devraient avoir peur de nos lois. Affirmer ça sans preuve, avec des médias qui relaient ces informations trompeuses, il va falloir qu'on revoie cela à l'avenir.
Et quel que soit le résultat final, les militants anti-IVG comptent bien faire quand même pression sur le gouvernement pour qu'il n'aille pas plus loin que ce qu'il a prévu dans sa réforme de libéralisation de l'avortement.
Reportage de Julien Lagache à Dublin. Les troupes gouvernementales syriennes s'apprêtent-elles à lancer une offensive d'envergure sur la province de Deraa? Des avions militaires ont largué quantité de tracts qui mettent en garde les effectifs dits rebelles qui contrôlent la zone. Il s'agit de l'une de ces si mal nommées zones de désescalade. Washington menace Damas d'une action ferme en cas de violation de cessez-le-feu. FMI, trois lettres qui hantent encore les Argentins. Les cicatrices laissées par les agissements du Fonds monétaire international en 2001-2002 sont encore douloureuses. Alors quand le président Mauricio Macri annonce qu'il a fait appel au FMI, le pays se cabre. Des centaines de milliers d'Argentins ont défilé hier dans les rues de Buenos Aires. Le gouvernement argue qu'il n'a pas le choix. Il faut éviter une nouvelle crise financière. C'est avant tout un aveu d'échec pour le président Mauricio Macri, selon Sébastien Velu, professeur à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine.
Mauricio Macri est arrivé au pouvoir en expliquant qu'il allait remettre l'économie en marche en finalement s'appuyant sur des mesures orthodoxes de contrôle de la dépense publique, d'offrir des meilleures conditions aux entreprises qui viendraient investir en Argentine, en facilitant la sortie de leurs bénéfices. On imaginait qu'un gouvernement de centre droit comme celui de M. Macri serait capable de gérer la macroéconomie. Et là, il apparaît qu'il a des difficultés à le faire. Et ce qu'il a fait, ce gouvernement, depuis 2 ans, c'est qu'il s'est considérablement endetté. En principe, pour lancer des programmes d'investissement, aussi parce que les Kirchner avaient refusé de le faire. Et du coup, Macri avait trouvé une Argentine avec un très faible niveau d'endettement, donc il avait la voie dégagée pour se réendetter sur les marchés internationaux. Mais comme la croissance n'est pas au rendez-vous, et malheureusement, les investisseurs, ils ne sont pas revenus ou pas dans les proportions qu'on avait espérées. Et c'est pour ça que l'Argentine, aujourd'hui, dans cette impasse économique et financière, et bien évidemment, cette situation, elle rappelle aux Argentins ceux qui ont connu 2002, ils sont nombreux, ceux qui ont connu 89, ils le sont encore aussi. Ces moments où la monnaie s'effondre, où l'hyperinflation s'installe, où les salaires fondent et la crise économique est là.
Sébastien Velu, professeur à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, des propos recueillis par Benjamin Delisle. La PHP ouvre ses portes jusqu'à dimanche. Une trentaine des 39 hôpitaux franciliens participent à cette opération. Ils accueillent chaque année 10 millions de personnes malades. Cette fois, le public pourra venir visiter en quelque sorte ici un bloc opératoire, là le service central de blanchisserie. Un système que l'on sait soucieux d'améliorer le quotidien des patients sans oublier la crise que traverse cette institution t'arrache légale.
Courses de 10 km, visites de services innovants et à l'honneur des associations qui aident à mieux supporter l'hôpital. À l'image par exemple d'Un cadeau pour la vie, fondé il y a presque 10 ans par Bruno Hakoun.
Nous, on n'a pas la prétention de changer énormément de choses, sauf que c'est vrai que lorsqu'on intervient dans un hôpital, alors soit pour des cadeaux, les enfants sont plus calmes, donc le personnel est moins stressé, les parents stressent moins aussi le personnel. Donc on s'aperçoit qu'avec des tout petits cadeaux courage, le soin est moins douloureux et les parents sont contents, le personnel aussi. Et surtout, lorsqu'on fait des décorations de service, c'est tout bête, mais lorsqu'on arrive dans un environnement de travail beau et propre, moralement, on se sent quand même un peu mieux dans la journée. Donc si on se sent mieux, on est moins nerveux et on prend mieux en charge les enfants. Donc à notre humble niveau, en tout cas, c'est ce qu'on fait.
Car les conditions sont dures en ce moment à l'hôpital. Le système craque, alerte les syndicats. Apollinaire Bonnereau est représentant Sud Santé à l'hôpital européen Georges Pompidou. Établissement où il faut travailler toujours plus, affirme-t-il.
Aujourd'hui, on a sur notre hôpital développé l'activité de 12%. Sans moyens supplémentaires pour les services. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des services qui sont, qui craquent. Moi, j'ai actuellement un service qui est venu nous voir pour nous demander de venir les accompagner face à la direction, parce que les infirmiers ont tous changé quasiment sur l'année. Il ne reste que deux infirmières actuellement, et la plus vieille a un an et demi d'ancienneté dans le service. C'est un service d'oncologie, et je vous laisse imaginer l'importance dans un service d'oncologie de l'expérience. Donc nous, on attend de notre directeur général qui vienne aussi à un moment dénoncer les difficultés qu'on rencontre. Aujourd'hui, on a des vraies difficultés dans l'hôpital, tout se dégrade, et ces journées portes ouvertes qui voudraient juste laisser entendre que tout va bien, c'est à un moment ou à un autre une forme de mensonge qui nous pose problème. C'est-à-dire que c'est pas l'idée d'ouvrir l'hôpital au public qui nous pose problème. C'est l'image qu'on veut en donner, alors que c'est de plus en plus difficile et il y a une vraie usure.
D'après les syndicats, la direction veut supprimer 800 postes à la PHP.
Tara Schlegel.
La bulle économique, Marie Viennot.
Aujourd'hui, une bulle économique est une bulle fiscale. Marie, vous nous entretenez du verrou de Bercy. Bonjour.
Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de fraude fiscale et de justice. Petit flashback pour commencer, 5 décembre 2012 à l'Assemblée nationale.
Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant.
Vous l'avez reconnu, c'est Jérôme Cahuzac, 4 mois avant sa démission et ses aveux. Finalement condamné à 2 ans de prison ferme et 300 000 euros d'amende, Jérôme Cahuzac n'est pas passé entre les mailles du filet. Mais ce n'est pas à l'administration fiscale qu'on le doit, c'est à Mediapart. Était-il protégé du fait de sa position de ministre du budget, en charge de l'administration chargée de débusquer les fraudeurs comme lui? La commission d'enquête parlementaire, qui a planché sur la question en 2013, n'a pas tiré cette conclusion. Pourtant, en tant que ministre du budget, Jérôme Cahuzac avait la main sur les dossiers fiscaux transmis à la justice. Il avait alors les clés du dorénavant fameux « verrou de Bercy ». Pourquoi ce verrou pose problème? Parce qu'il entretient la suspicion. L'administration fiscale réalise 50 000 contrôles par an, 14 000 sont passibles de redressement, parmi eux 4 700 prévoient des amendes supérieures à 100 000 euros, mais seulement 1 000 sont transmis par l'administration à la commission chargée de décider s'il y a lieu ou pas de remettre ensuite le dossier à la justice. Quels sont les dossiers qui ne sont pas transmis? Pourquoi? À chaque mission d'enquête qui se penche sur la question, l'administration fiscale explique qu'elle transmet les dossiers les plus graves ou ceux pour lesquels il y a une possibilité de gagner en justice. Mais le doute persiste. Y a-t-il des pressions politiques? Quels citoyens, citoyennes ou multinationales s'en tirent discrètement avec un gros chèque sans passer par la case procès? Le verrou de Bercy alimente la suspicion d'une opinion publique échaudée par l'affaire Cahuzac, les LuxLeaks, Panama, Paradise Papers et j'en passe. Alors de multiples fois, des parlementaires ont tenté de faire sauter ce verrou, sans succès. Mais cela pourrait changer. Une mission parlementaire vient de proposer de confier aussi les clés du verrou au Parlement et au parquet, c'est-à-dire la justice. Pour autant, tous les doutes seront-ils levés? Pas vraiment, car c'est toujours l'administration qui lancera les enquêtes, et même si elle est très légaliste et qu'il n'y a rien à lui reprocher dans l'ensemble, dans le détail, l'affaire Cahuzac montre que parfois il y a des ratés. Car il y a bien eu une enquête d'un inspecteur des impôts sur les époux Cahuzac. Ce dernier a même remis un mémoire à sa hiérarchie en 2008, évoquant des anomalies, mais rien n'a bougé. Avant le verrou de Bercy, il y a le filtre hiérarchique, sa capacité à enterrer les dossiers et aussi, non négligeable, les moyens d'enquêter. Même renforcé dernièrement, il reste insuffisant. Si le verrou de Bercy est supprimé, verra-t-on plus de fraudeurs devant les tribunaux? Diront-ils à l'avenir comme la chanson « J'ai enfreint la loi a gagné » Là encore, rien n'est moins sûr, car l'intention de fraude fiscale est difficile à démontrer et les gros poissons savent très bien nager en zone grise entre optimisation et fraude. L'autre problème, c'est que les tribunaux correctionnels sont déjà engorgés. C'est d'ailleurs l'argument phare des parlementaires qui refusent de lever le verrou. La justice aura-t-elle le temps et les moyens de traiter le surcroît de dossiers de fraude fiscale? N'est-ce pas plus efficace d'en rester à l'amende administrative, même si la justice ne passe pas? il est là, le débat, entre efficacité et moralité. Rendez-vous à l'automne, quand la levée du verrou de Bercy sera pour une énième fois en débat à l'Assemblée.
Ainsi se referme la bulle économique de ce samedi. Merci Marie Viennot. Côté météo, un front orageux. 21 départements d'Ouest sont placés en vigilance orange. Des orages qui vont gagner le bassin parisien, la Picardie et le Grand Est dans l'après-midi. Cette édition a été préparée avec Emmanuel Faucillon, à la technique Pascal Baudin.